Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise. Sur Radio Immo.
Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct au Palais des Congrès et des Festivals de Cannes à l'occasion de l'édition 2022 du MIPIM qui s'est ouvert ce matin. Je peux vous dire que ça grouille de monde et que tout le monde est absolument ravi de se retrouver après 2 ans de crise sanitaire et un petit MIPIM de septembre. C'était un tour de chauffe et là, je peux vous dire que tout le monde est prêt. Ça y est, on est parti pour 4 jours de très beaux salons où tout le monde se rencontre et le monde entier est là. La France, mais pas que, vous l'avez déjà vu ce matin. Et vous le verrez tout au long de ces journées de salon, puisque nous sommes ensemble jusqu'à vendredi midi pour profiter et rencontrer tous ces acteurs de l'immobilier. Et on va continuer dès à présent avec Alexis Gazzo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé en charge du développement durable chez EY. Et avec vous, nous allons parler du sujet du développement durable appliqué à l'immobilier tertiaire. Et je pense pouvoir dire sans trop me tromper que c'est plutôt un gros sujet. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il y en a encore pas mal à faire. On va voir ça avec vous. Avant, Alexis, est-ce que vous pouvez nous représenter EY ?
Oui, alors EY, c'est une très grosse société, évidemment, qui fait donc 300 000 personnes dans le monde, hein, qui travaillent à la fois sur de l'audit, sur du conseil, sur tout ce qui est juridique et fiscal, et sur du conseil en transaction. Alors, moi, dans cet univers-là, je travaille dans une équipe qui est assez particulière, puisqu'elle est spécialisée sur les sujets de la transition énergétique, climatique, de la RSE, enfin du développement durable au sens large. Et donc c'est une équipe qui fait 2000 personnes dans le monde et 150 en France, dont j'ai la charge.
Je le disais à l'instant, le sujet du développement durable dans le tertiaire, c'est quand même un gros morceau, déjà parce que ce sont souvent des grands bâtiments qui sont pour la plupart anciens, qui consomment. Donc il y a un chemin qui a déjà été fait, notamment dans le bureau. On sait que ce sont les actifs les plus valorisés sont ceux qui sont les plus performants et les plus vertueux. On en est où aujourd'hui du marché tertiaire et du développement durable ?
Nous, on a le sentiment que globalement, on est quand même à une phase assez intéressante, une phase d'inflexion où effectivement, il y a eu beaucoup de développement ces dernières années, une évolution du cadre réglementaire qui n'arrête pas, hein, puisque entre les réglementations, les labels également, là, on a le label BBC1 qui se met en place. Tout ça crée effectivement un alignement des planètes, j'ai envie de dire, entre d'un côté le cadre réglementaire, normatif, etc. D'un autre côté, les attentes des occupants, hein, entreprises, salariés ou autres, qui effectivement voient ça comme un élément d'attractivité, comme un facteur favorable, etc. Et puis d'autre part, les investisseurs, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui se disent bah, « moi je veux investir dans les actifs » qui répondent à un certain nombre de critères verts. Et par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu cette année la mise en place de la taxonomie verte européenne qui renforce, qui est là pour apporter de la clarté d'ailleurs aux investisseurs, pas que sur ce secteur, hein, sur tous les secteurs, pour justement permettre d'orienter les capitaux. Donc voilà, entre à la fois le cadre réglementaire, les attentes des utilisateurs, des occupants, des clients et puis des investisseurs, c'est un alignement qui fait qu'à mon avis, les prochaines années vont très très fortement renforcer cette dynamique. Et j'ajouterai que dans le contexte actuel de prix de l'énergie très élevé, ça renforce encore plus la nécessité de s'occuper de ces sujets.
On a l'impression, en écoutant divers acteurs de ce secteur, qu'être installé, ne serait-ce que qu'utiliser un bâtiment vertueux, un bâtiment green, c'est un plus pour l'image de son entreprise, pour son image de marque. C'est quelque chose que vous constatez également ?
Ah oui, alors ça, c'est clairement effectivement quelque chose qui ressort de tous les échanges qu'on a eus avec nos clients, que ça soit effectivement en termes d'image vis-à-vis de leurs clients, que ce soit en termes d'attractivité vis-à-vis du recrutement, notamment pour les jeunes recrues qui sortent des meilleures écoles, en termes de rétention également. Mais au-delà de ça, si vous voulez, au-delà de ces sujets d'image, il y a également une réalité économique hein, qui est assez claire aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de solutions aujourd'hui de monitoring de la performance multifluide, hein, que ce soit sur l'énergie, sur l'eau, etc., qui montre bien le retour sur investissement. Et finalement, notamment sur des systèmes de pilotage, hein, on ne parle pas forcément d'investissement très lourd en termes de travaux, mais juste parfois en termes de système de pilotage, on arrive vraiment à pouvoir générer une valeur économique. Et je ne parle pas non plus de la valeur à la revente aussi, qui est un élément important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé de quelques éléments, l'énergie, l'eau, mais aujourd'hui, il y a la biodiversité également qui devient un sujet. Donc, comment est-ce que finalement, intégrer de la nature, intégrer de la biodiversité, en quoi est-ce que ça va jouer sur la valeur, C'est des choses qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, mais on sait que ça va faire partie des éléments de l'équation économique demain.
Vous avez parlé de réglementation tout à l'heure et cette année, on l'a déjà dit l'année dernière, mais cette année ça devrait être la bonne, va entrer, en tout cas les gestionnaires vont pouvoir enregistrer les performances de leurs bâtiments sur la plateforme Opéra à l'occasion de la mise en œuvre du décret tertiaire. On le rappelle, donc une réduction de 50% d'ici 2050 des émissions des bâtiments avec des échéances notamment à 2030 et 2030, c'est déjà demain, je pense qu'on peut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui on se met en place pour la réglementation, ou est-ce que c'est même plus intéressant d'aller au-delà pour tout ça, pour toutes les raisons que vous nous avez expliquées?
Alors, c'est des choix que l'on voit. C'est-à-dire qu'effectivement, on a longtemps vu ça, finalement, des positions de certains acteurs qui se disaient « Moi, je dois effectivement me mettre en conformité, je dois cocher la case, quelque part, réglementaire, mais je ne vais pas en faire plus ». Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup d'acteurs, que ce soit des promoteurs, des investisseurs, des acteurs de la construction, qui disent finalement, c'est pas qu'une contrainte, finalement, ou plutôt cette contrainte, je peux la transformer en opportunité parce que ça va apporter plus de valeur à mes clients, à mes utilisateurs, parce que finalement, je me rends compte que moi-même, dans mon business, ça peut m'ouvrir aussi des idées pour quelque part avoir d'autres sources de revenus, parce que je vais me positionner, je vais me diversifier un peu, je vais me positionner sur la recharge électrique, je vais offrir d'autres services. Donc c'est intéressant parce que finalement cette contrainte réglementaire, et ça rentre aussi dans le cadre de tout ce qui est autour de la mesure de la performance extra-financière, c'est des choses où à partir du moment où on mesure, on veut faire mieux, parce qu'effectivement lorsqu'on va retourner voir les investisseurs ou ses clients, on veut montrer une progression, et du coup ça encourage à transformer le modèle d'affaires, pas juste effectivement rester dans la conformité. Donc on voit de tout, mais aujourd'hui ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs qui voient qu'ils peuvent transformer cette contrainte en opportunité.
Peut-être aussi parce que jusqu'à présent, ils n'avaient finalement aucune idée de leur consommation et de leur empreinte carbone, non ?
Exactement, quand vous n'avez pas de thermomètre, c'est compliqué de se dire où est-ce que vous voulez aller, quel objectif vous voulez vous donner. Lorsque vous avez le thermomètre, effectivement, vous dites, moi, je veux aller à tel niveau. Alors, on est un peu aidé parce qu'effectivement, on a aussi une stratégie nationale. On a beaucoup de choses européennes, évidemment, etc., qui nous donnent des éléments pour se dire si je veux être compatible avec du 1,5 degré, si je veux être SBTI, je peux aussi me faire labelliser par différents organismes. Ça me donne des éléments pour avoir une trajectoire à long terme. Après, comment j'y arrive, c'est assez compliqué. Et donc, est-ce que je vais y arriver avec effectivement un effort particulier en interne, en faisant certains investissements, est-ce que je vais me diversifier? Tout ça, c'est des questions qui sont compliquées. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on nous mobilise assez souvent, parce que ce sont des sujets complexes.
Ce sont des sujets dont on parle beaucoup pour les bureaux, parce qu'on les utilise, parce qu'on les habite, parce qu'on a besoin d'y ressentir du confort. Mais l'immobilier tertiaire, ce n'est pas que cela. Et je pense notamment au secteur logistique, aux entrepôts, qui sont des très grands bâtiments, qui sont souvent très énergivores, sur lesquels il y a aussi des progrès à faire.
Il y a des progrès à faire, et c'est aussi un secteur où on voit beaucoup d'innovation. Parce que finalement, ce sont des actifs sur lesquels, vous l'avez dit, il y a souvent des gros enjeux énergétiques et sur lesquels, je dirais que travailler sur des sujets un peu plus compliqués qui peuvent être de coupler du solaire en toiture avec un électrolyseur pour alimenter en hydrogène des monts de charge, et puis demain, pourquoi pas, les camions. Ça, c'est des projets concrets que l'on voit et sur lesquels on travaille, qui sont aussi aidés parce que dans le cadre du plan de relance, dans le cadre de France 2030 aujourd'hui, il y a effectivement de l'argent public et des subventions pour des projets innovants.
Parce que ça a quand même plus de coûts que juste se poser dans un vieux bâtiment,
Bien sûr, on peut le dire, mais c'est aussi via ce type de projet innovant qu'on va créer quelque part un effet d'entraînement pour ensuite massifier au niveau du secteur des solutions bas carbone. Donc c'est là effectivement où est l'intérêt d'avoir de l'argent public, c'est que pour finalement avoir des vitrines, des projets démonstrateurs, vitrines qui vont inspirer d'autres, pour aussi pouvoir un peu changer d'échelle et passer ces premiers déploiements commerciaux. Donc moi, ça me donne quand même beaucoup d'espoir, parce que même si c'est compliqué, même si effectivement c'est cher, quoique à nouveau, hein, je reviens sur le contexte actuel, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai parlé d'hydrogène, le prix de l'hydrogène vert est aujourd'hui moins cher dans certains pays que l'hydrogène gris, parce que les énergies fossiles sont devenues très très chères. Bon, c'est sans doute conjoncturel. Mais si vous voulez, on voit que quelque part, ça donne un aperçu du futur, et je pense que le futur, ça va être une décarbonation beaucoup plus rapide que ce qu'on anticipe.
Est-ce que vous avez l'impression que la crise sanitaire a un peu accéléré les choses ? Je m'explique notamment sur ce secteur de la logistique. On a vu l'explosion du e-commerce ou de tout ce qui est autour du service, cette logistique du dernier kilomètre à laquelle il faut répondre et il devient important de répondre. Et finalement, des bâtiments logistiques qui se rapprochent des centres urbains pour quasiment s'installer. Hein, c'est le cas des dark kitchens ou des dark stores qui sont installés aujourd'hui en centre-ville. Est-ce que du coup, ça a accéléré ce besoin de décarboner et de faire de la logistique plus verte ?
Mais je crois, oui, que ça a été un accélérateur. Il y a effectivement des changements d'usage qui ont été parfois assez disruptifs et des changements de logique qu'on n'attendait pas du tout en termes de pure logistique et de besoins consommateurs. Mais après, d'un autre côté, il y a eu également, je reviens un peu là-dessus, mais une volonté des gouvernements, surtout au niveau européen, mais pas uniquement, c'était vrai aussi aux États-Unis, d'aller beaucoup plus dans une relance qui soit verte. Et du coup, avoir un plan de relance qui est à 30% vert, donc c'est le cas en France et en Europe, hein, je le rappelle, bah effectivement, ça a apporté beaucoup de soutien à des solutions de mobilité, et notamment dans la logistique. C'est également le cas pour un certain nombre de sujets bâtimentaires, mais notamment sur la mobilité. Donc oui, effectivement, entre cette relance, entre la conviction aussi que c'était le moment aussi de changer de mode de faire, je dirais, pour certains usages, ça a clairement été un accélérateur. Et puis je pense que quelque part, ça a aussi créé un sentiment au sein de l'ensemble des acteurs, hein, à nouveau, que ce soit les usagers, les consommateurs, etc., que finalement, il faut aussi que dans nos usages on change, qu'il faut que dans nos comportements on change, parce qu'on voit que ce que nous annonce la science, bah, ça se réalise parfois, et qu'une crise qui est annoncée par la science, elle peut arriver. Et le dernier élément, c'est qu'il faut quand même rappeler que depuis 2 ans, on sent vraiment les effets du changement climatique. Quand vous avez un dôme de chaleur à 50 degrés au Canada, quand vous avez des inondations dévastatrices en Allemagne, on sent qu'on, là, on est vraiment dans le dur, j'ai envie de dire, et qu'on sent les effets, y compris économiques, du changement climatique. Donc ça accélère cette prise de conscience.
Il est temps d'agir. Merci beaucoup, Alexis Gadzo, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes associé en charge du développement durable pour la société EY. C'était un plaisir de discuter de ces questions avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize. Sur Radio Immo.